Vous écoutez « On lit pour vous ».
Québec tarde à intervenir pour enrayer les suicides en prison. Un texte de Stéphanie Vallet et Félix Deschênes, paru le 14 novembre 2025 dans Le Devoir. Selon une analyse du Devoir, 85% des suicides survenus dans les prisons du Québec en une décennie ont eu lieu dans un établissement provincial. Le protecteur du citoyen presse le gouvernement de mener à terme ses chantiers en matière de soins de santé en milieu carcéral, puisque les principales recommandations effectuées dès 2011 par son équipe, puis celles du bureau du coroner, pour enrayer ce fléau, n'ont toujours pas été mises en place. Nous avons analysé tous les décès survenus dans les prisons du Québec entre avril 2014 et mars 2024. 74 suicides sont survenus dans les prisons provinciales, un nombre qui détonne avec celui des établissements fédéraux en sol québécois, où 14 détenus se sont enlevés la vie durant la même période. Les prisons provinciales admettent beaucoup plus de détenus dans leur enceinte et leur population moyenne est 40% plus importante. Mais, toute proportion gardée, le taux moyen de suicide pendant la période analysée est 3,5 fois plus élevé qu'au fédéral. Pour la période allant du printemps 2014 à celui de 2021, ce taux moyen était aussi 2,5 fois plus élevé dans les prisons provinciales du Québec que dans celles de l'Ontario. Ce sont des chiffres quand même importants, reconnaît Isabelle Fortin, directrice adjointe responsable de la santé mentale et des soins et services carcéraux de Santé Québec. Elle affirme que la prévention du suicide en prison est une priorité et que des travaux en ce sens sont en cours. Le bureau du coroner a interpellé le gouvernement québécois sur la question des suicides à plusieurs reprises au cours des dernières années. Une enquête publique a même été déclenchée en 2020. Chargée de faire la lumière sur ces tragédies, la coroner Karine Spénard a publié à l'époque 26 recommandations destinées au ministère de la Sécurité publique. Mais encore aujourd'hui, bon nombre d'entre elles ne se sont pas encore concrétisées sur le terrain, comme celle d'inclure des psychologues aux services de santé prodigués en milieu carcéral. Au cours des derniers mois, la coroner Spénard a d'ailleurs réitéré certaines de ses recommandations dans le dossier d'Olivier Magnan, décédé en novembre 2023 au centre de détention de Montréal, anciennement Bordeaux. À son arrivée, comme chaque détenu qui pousse les portes de la prison, Olivier Magnan répond à un questionnaire qui vise à évaluer son risque suicidaire. Il faudra environ 5 minutes à un agent correctionnel pour poser ces 9 questions à l'homme de 35 ans. L'agent ne relève pas d'éléments préoccupants, inscrivant à la fin du formulaire que la personne incarcérée se dit non suicidaire, selon les informations contenues dans le rapport de la coroner. Le lendemain, Olivier Magnan comparaît devant le juge et apprend qu'il devra rester incarcéré. Le surlendemain, il est retrouvé pendu dans sa cellule. En entrevue au Devoir, Karine Spénard déplore que l'évaluation du risque suicidaire à l'admission ne soit toujours pas accomplie par des professionnels de la santé. Des gens qui ont une formation plus étendue et plus poussée en prévention du suicide et qui sont habiles à détecter ces signaux-là qui ne seraient pas verbalisés. La coroner soutient également qu'il faudrait effectuer un questionnaire d'évaluation du risque suicidaire systématiquement, à la suite de chaque passage à la cour, pour s'assurer que les personnes incarcérées ne soient pas plongées dans une détresse les amenant à vouloir mettre fin à leur jour. Le ministère de la Sécurité publique applique désormais partiellement cette recommandation, en fonction de la capacité d'évaluation des établissements. Il assure que 25 des 26 recommandations ont maintenant été traitées et il ne rapporte qu'un suicide survenu dans les établissements provinciaux dans les 6 derniers mois. Vous écoutez « Québec tarde à intervenir pour enrayer les suicides en prison », un texte de Stéphanie Vallet et Félix Deschênes, paru le 14 novembre 2025 dans Le Devoir. Les contre-coups de la pénurie de personnel. Seuls 3 des 16 centres de détention provinciaux peuvent compter sur d'anciennes infirmières de la prison, devenues agentes correctionnelles, pour évaluer les nouveaux détenus. Ailleurs, ce sont les agents correctionnels réguliers qui agissent à titre d'intervenants de première ligne, explique Mathieu Lavoie, le président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Mais le contexte particulier de pénurie de personnel, marqué par 250 postes vacants et plus de 300 agents en arrêt de travail à l'échelle de la province, complique les choses. On n'a pas nécessairement les gens pour agir et puis intervenir, pour faire des observations ou pour référer les personnes ayant des problèmes de santé mentale, précise M. Lavoie. Les agents correctionnels reçoivent un cours de 6 heures sur la prévention du suicide en milieu correctionnel et sur le questionnaire d'évaluation du risque suicidaire dans le cadre de leur formation initiale. Sur une base volontaire, certains reçoivent une formation supplémentaire qui leur ouvre les portes d'une équipe d'intervention spécialisée chargée d'évaluer les personnes chez lesquelles on a préalablement dépisté des idées suicidaires pour recommander les interventions appropriées. Mais une fois encore, le manque d'effectifs ne leur permet pas toujours d'intervenir rapidement. Si un membre de l'équipe d'intervention doit rencontrer une personne qui se déclare suicidaire, il doit être remplacé à son poste, ce qui comporte des difficultés, explique une agente correctionnelle non autorisée à parler aux médias. Donc, s'il travaille à la porte centrale, son gestionnaire doit l'autoriser à prendre 1 heure et demie pour aller faire l'évaluation, précise-t-elle. Souvent, le chef d'unité ne veut pas le dégager. Dans son rapport 2024-2025, le protecteur du citoyen constate que les progrès consistant à réduire l'intervalle dans les établissements de détention entre la réalisation du questionnaire initial et l'évaluation approfondie du risque, ainsi que des besoins de suivi pour un détenu suicidaire, sont très limités. L'Ombudsman des prisons du Québec note que, dans le contexte actuel, le recours à l'isolement solitaire est souvent la voie choisie. Selon une plainte reçue par l'organisme en 2024, une personne incarcérée a été gardée en isolement 22 heures sur 24 pour des motifs suicidaires pendant 2 mois. Une seule grille d'évaluation approfondie a été remplie 3 semaines après sa mise en isolement. L'année précédente, Yann Lacroix-Vermette est évalué à son admission par une agente correctionnelle de l'établissement de détention de Sherbrooke. Son risque suicidaire était déjà bien documenté par le service de police de la ville de Sherbrooke dans le dossier soumis au système correctionnel, selon le rapport du coroner. L'évaluation est arrêtée en cours d'exercice par M. Lacroix-Vermette. En attendant une nouvelle évaluation, le prévenu est placé dans une cellule pour 2 personnes. Un nouvel agent est mandaté pour effectuer l'évaluation, mais il refuse de la faire, mentionnant qu'il avait eu une intervention antérieure difficile avec M. Lacroix-Vermette. Aucun autre agent n'est disponible ce soir-là pour réaliser l'évaluation. Entre-temps, le co-détenu de Yann Lacroix-Vermette est libéré, laissant celui-ci seul dans sa cellule. Il est retrouvé mort quelques heures plus tard. Le ministère de la Sécurité publique indique qu'une note a été transmise à tous les établissements de détention au printemps 2024 pour rappeler que le recours à l'isolement pour motif de risque suicidaire ne doit être utilisé qu'en dernier recours et demandé de viser les 24 heures pour la passation de la grille d'évaluation approfondie. On souhaite être davantage proactif, agir plus rapidement, prendre en charge plus rapidement la personne en évitant la dégradation de son état, indique quant à elle Isabelle Fortin de Santé Québec. C'est ce que prévoient nos travaux. 14 ans de drapeau rouge. En 2011, le Protecteur du citoyen a publié un rapport coup de poing sur les services offerts aux détenus présentant des problèmes de santé mentale. Il ciblait notamment des lacunes dans la distribution de médicaments essentiels pour traiter ces troubles, ainsi que des problèmes de circulation d'informations cruciales dans le dossier de santé des détenus. Deux aspects qui comportent toujours des failles notables, près de 15 ans après l'amorce d'une réforme dans le système. Nos constats demeurent tout à fait d'actualité, remarque l'actuel protecteur du citoyen, Marc-André Daoud. Il y a toujours des enjeux de ressources, d'organisation, de communication. C'est à ces obstacles-là qu'il faut s'attaquer. Ces failles s'avèrent parfois déterminantes dans la mort de détenus, selon plusieurs coronaires qui se sont penchés sur le sujet au cours des dernières années. En 2022, un homme est envoyé à l'établissement de détention de Sherbrooke en attendant sa comparution après avoir été hospitalisé pour une psychose toxique. Un médecin psychiatre vient de lui donner son congé en notant qu'il doit demeurer en tout temps sous surveillance. Or, cette note n'est pas remise à l'agent correctionnel qui évalue son risque suicidaire à l'admission. Celui-ci omet également de consulter l'onglet « Prévention du suicide » qui apparaît au dossier de l'homme, où des grilles d'évaluation approfondies recommandaient, elles aussi, sa surveillance étroite, puisqu'il disait qu'il allait s'enlever la vie à la première occasion. Il est alors placé seul dans une cellule et est retrouvé mort le lendemain matin. Il faut qu'un réflexe s'installe pour que les communications soient beaucoup plus fluides entre le secteur de la santé et le secteur des services correctionnels, notamment sur toutes les questions qui concernent la santé des personnes incarcérées, fait valoir Marc-André Daoud. Celui qui a mené l'enquête de 2011 reconnaît que le rapport annuel 2024-2025 de son organisme, publié au début octobre, laisse transparaître une certaine forme d'impatience. Ce ton-là est choisi. Effectivement, après toutes ces années, cette réforme-là doit se conclure concrètement. Les chantiers qui restent, qui sont en œuvre actuellement, doivent être complétés. C'est urgent. Besoin d'aide. Si vous pensez au suicide ou vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles en tout temps au 1-866-APPEL, 1-866-277-3553, par texto 53-53-53 ou par clavardage à suicide.ca. C'était « Québec tarde à intervenir pour enrayer les suicides en prison », un texte de Stéphanie Vallet et Félix Deschênes, paru le 14 novembre 2025 dans Le Devoir.
Fossé agricole, un maître pour les pollinisateurs. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 29 septembre 2025 dans La Presse. Il ceinture tous les champs, mais sont les laissés pour compte de l'agriculture. Avec un peu d'attention, les fossés peuvent devenir des refuges fabuleux pour les insectes pollinisateurs qui vivent un déclin inquiétant dans le monde. Une dizaine d'agriculteurs de l'Estrie et de la Montérégie ont décidé de leur créer un habitat fleuri avec le projet « Un maître pour les pollinisateurs ». Des rudbeckies, des marguerites, du mélilot jaune, des verges d'or, des asters. Les fossés de la ferme d'Étienne Baudry débordent de fleurs sauvages. Si on en voyait partout, Ça serait encore mieux pour la biodiversité, dit-il, au sujet de ces bandes de fleurs qui longent une partie de ces fossés sur une distance de plus de 2300 mètres sur sa terre de Granby. Il y a un peu plus d'un an, l'éleveur de 48 ans a levé la main pour participer au projet « Un maître pour les pollinisateurs ». C'est accessible. Tout le monde peut l'essayer. Se réjouit-il à propos de la simplicité de cette initiative. Depuis 2023, 11 300 mètres de fossés ont été aménagés dans 11 entreprises agricoles grâce à une enveloppe de 85 000 $ obtenue dans le cadre du programme Prime Vert du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Des fleurs et des insectes. L'idée vient de Gestrie Sol, un club conseil en agro-environnement qui a trouvé le financement, convaincu des agriculteurs de se lancer, puis créé des mélanges de fleurs adaptés aux réalités agricoles de la région. 12 espèces qui fleurissent à différents moments dans l'année ont été sélectionnées. Les fossés, c'est un peu les mal-aimés, explique d'entrée de jeu Marie Bourgault, agronome et biologiste pour le club Gestrie Sol. C'est elle qui a semé les fossés à l'aide d'un semoir manuel et pris sa pelle pour planter des plants. Un matin de juillet, elle inspecte une bande fleurie semée au printemps 2024 aux côtés d'Étienne Baudry. De nombreux insectes sont visibles immédiatement. On le voit aujourd'hui, c'est plein d'insectes, remarque Étienne Baudry. Il y a du stock là-dedans, s'exclame Marie Bourgault. Abeilles, bourdons, guêpes, papillons, la communauté scientifique est unanime sur le fait que les populations d'insectes pollinisateurs s'effondrent dans le monde. Au banc des accusés, perte d'habitat, virus, parasites, changement climatique, urbanisation, agriculture intensive et pesticides. Le constat, dit Mme Bourgault, c'est que l'on perd nos pollinisateurs qui sont nécessaires pour qu'on puisse manger. Si on regarde nos étalages d'épicerie, on pourrait perdre jusqu'à 70 % de nos fruits et nos légumes si on n'avait pas les pollinisateurs. Gardien de la biodiversité. Dans le cadre de la création d'une certification intitulée « Reconnaissance biodiversité au champ », Marie Bourgault et sa collègue Andrea Schroeder ont épluché la littérature scientifique pour déterminer les meilleures pratiques à adopter à la ferme. Dans nos recherches, lorsqu'on parlait de pollinisateurs, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même un minimum de fleurs dans le paysage pour permettre leur survie potentielle, explique Mme Bourgault. Au Québec, la loi interdit aux agriculteurs de cultiver une bande riveraine de 3 mètres au minimum à partir de la ligne des hautes eaux, près des cours d'eau, et d'un mètre le long des fossés de drainage. La bande de 3 mètres n'est pas toujours respectée, montrent plusieurs recensions de cours d'eau effectuées au Québec. Même lorsque cette zone tampon est conservée, elle est souvent fauchée. En laissant pousser la végétation dans les bandes riveraines et près des fossés, on obtient assez de fleurs pour favoriser la survie des pollinisateurs, indique l'agronome et biologiste. Marie Bourgault souhaite maintenant que cette initiative fasse des petits ailleurs au Québec. De nombreuses conférences ont d'ailleurs été données. Un producteur pourrait simplement commencer en cessant de faucher une bande d'un mètre près du fossé pour laisser les fleurs sauvages s'épanouir. Il peut aussi faire attention aux dérives d'herbicides lors des arrosages, qui peuvent tuer les espèces désirables et plus sensibles. Diane Viau est une autre productrice qui a accepté de participer au projet. Environ 1000 mètres de ces fossés ont été semés et 75 mètres ont été plantés. C'est important, l'environnement, dit Mme Viau. On n'est pas propriétaire de nos terres, on est juste des gardiens de la biodiversité. Celle qui a repris la ferme laitière de ses parents avec son frère souligne que laisser pousser les fossés marque un changement de mentalité. C'est toute une culture différente. Mon père, dans le temps, il fauchait tout. C'était important que ce soit propre. On ne laissait pas pousser, ça devait être clean, souligne-t-elle. Marie Bourgault souligne que les producteurs qui font partie du projet sont très ouverts et enthousiastes. On est toujours avide d'apprendre et on est curieux, commente Diane Viau, qui, comme Étienne Baudry, a obtenu la certification Reconnaissance biodiversité au champ pour ses efforts de conservation. Je pense que c'est important que les gens sachent que des agriculteurs posent des actions et des gestes, souligne Étienne Baudry, qui a décidé d'aménager d'autres parcelles pour le projet cette année. C'était Fossés agricoles, un maître pour les pollinisateurs. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 29 septembre 2025 dans La Presse.
L'éducation compte pour la prospérité de nos nations, tout comme l'égalité en éducation. Un texte de François Delorme et Thomas Piketty, publié le 13 novembre 2025 dans Le Devoir. La France et le Québec ont en commun d'avoir un système d'éducation injuste. En finançant fortement les écoles privées avec des fonds publics, à 75% dans les deux cas, nos deux nations ont créé un marché scolaire qui met en concurrence les familles. Les écoles privées sont payantes. L'accès des plus pauvres est théorique et ont le privilège de choisir elles-mêmes les élèves qu'elles acceptent et ceux qu'elles refusent. Elles s'autorisent aussi à s'en délester en cours de route, telles des montgolfières jetant du lest pour ne pas perdre d'altitude. Dans les deux sociétés, ces écoles représentent 20% du marché de l'enseignement secondaire. Le Québec est allé encore plus loin en autorisant certaines écoles publiques à faire elles aussi leur marché parmi les élèves. Ces écoles publiques sélectives choisissent leurs clients en fonction de leurs résultats scolaires et de la capacité de payer de leurs parents. Cette concurrence déloyale déséquilibre la composition sociale des écoles normales et mène à toujours plus d'évitement scolaire de la part des parents et des enseignants. Personne ne gagne dans ce marché, ni les enfants vulnérables qui se retrouvent entre eux avec souvent de moins bonnes conditions d'apprentissage, ni les enfants favorisés qui pâtiront d'une vision tronquée de leur société. Le ressentiment d'un côté, l'urbie de l'autre. Deux leviers déterminent la prospérité d'une nation, le niveau d'éducation et l'égalité d'accès à cette éducation. Le savoir doit être un bien commun. Une société qui réserve les meilleures conditions d'apprentissage à ses enfants les plus favorisés mine ses propres fondations. À l'inverse, lorsque chaque enfant, peu importe son origine socio-économique, reçoit une éducation de qualité, la nation s'en trouve renforcée, plus innovante, plus solidaire, plus résiliente. L'équité nourrit la prospérité et la prospérité renforce l'équité. Innover pour mettre fin au blocage. Le plan pour un réseau scolaire commun proposé au Québec par l'association École Ensemble est sans doute l'avenue la plus prometteuse pour mettre fin à ce qui est avant tout un blocage politique. Depuis l'échec de la réforme Mitterrand au début des années 1980, le débat français sur le financement de l'enseignement privé tourne en rond. 40 ans plus tard, les lignes de fracture restent les mêmes et le dialogue demeure stérile. Le Québec connaît un blocage similaire. Depuis des décennies, la discussion se résume à recenser des solutions dépassées, telles l'abolition des écoles privées subventionnées, dont l'impraticabilité politique a permis de sanctuariser le statu quo. Le fondement du réseau scolaire commun est de distinguer les écoles privées d'intérêt public et celles qui ne le sont pas. Et soyons clairs, celles qui sélectionnent leurs élèves ne peuvent prétendre être d'intérêt public. C'est pourquoi le plan prévoit de financer publiquement à 100%, c'est-à-dire autant que les écoles publiques, les écoles privées qui formeront avec les écoles publiques le réseau scolaire commun. On parlera dès lors d'écoles privées conventionnées. Tout comme les écoles publiques, elles accepteront gratuitement tous les élèves de leur secteur attitré. Les écoles privées qui voudront continuer à choisir leurs élèves, que ce soit par des frais, des examens ou sur une base ethnique ou religieuse, ne pourront se conventionner et donc ne recevront plus de fonds publics. Ces écoles privées non conventionnées seront vraiment privées et ne coûteront plus rien à l'État. En mettant en place une carte scolaire équitable, appuyée sur une sectorisation modernisée par les outils cartographiques récents, le réseau commun pourrait assurer une réelle mixité sociale entre les écoles et garantir aux familles un accès équilibré à la qualité éducative. En atténuant les effets des inégalités résidentielles qui structurent nos grandes villes, cette approche réduirait les appréhensions liées au risque d'écoles ghetto. L'enjeu central consiste à faire cohabiter, au sein d'un même système d'affectation, les écoles publiques et les écoles privées conventionnées. Dans un peu moins d'un an, les électeurs du Québec se choisiront un nouveau gouvernement. Cette année électorale devrait être l'occasion d'un véritable débat de fond sur ces enjeux essentiels. Comme ces défis sont partagés de part et d'autre de l'Atlantique, Québécois et Français gagneraient à s'épauler dans cette réflexion fondatrice pour leurs nations respectives. C'était « L'éducation compte pour la prospérité de nos nations », tout comme l'égalité en éducation. Un texte de François Delorme et Thomas Piketty, publié le 13 novembre 2025 dans Le Devoir.